Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce mois de novembre, avec aussi la saison d'automne, la végétation qui semble mourir, le jour qui semble descendre de plus en plus court, il nous est bon de méditer sur la mort. C'est utile pour nous de méditer sur la mort pour vivre dans le réel. Puisque l'essentiel, la plus grande partie de notre existence, va se passer finalement après notre mort, se dérouler après notre mort, que ce bref temps de la vie est comme un rêve où malheureusement, facilement, nous tombons dans l'illusion. La mort reste pourtant pour nous un mystère, grand mystère. Nous, spontanément, nous espérons vivre pour toujours et nous ne comprenons pas pourquoi nous devons mourir. Et pourtant la mort est naturelle. La mort est à la fois naturelle et à la fois un châtiment. Comment cela? Elle est naturelle parce que notre corps est matériel, tout ce qui est matériel s'use. Notre corps est composé d'organes très divers qui ne pourraient pas fonctionner ensemble, être unis ensemble sans un principe de vie qui est l'âme. Et qui, lorsque l'âme s'en va, se décompose, se sépare les uns des autres et finissent par tomber en poussière. La mort est donc naturelle, mais la mort n'est pas naturelle dans la mesure où Dieu avait créé l'homme immortel. Dieu avait donné, avec la justice originelle, ce don particulier d'immortalité, comme une exception à la loi de corruption de la matière, qui faisait que les hommes, s'il restait fidèle, s'il gardait cette justice originelle, se serait transmis l'immortalité et ne serait pas mort. Et c'est bien ce que nous éprouvons, étant esprit par notre âme, nous saisissons mal que nous puissions disparaître, au moins que notre corps puisse disparaître aussi. Il nous est donc bon de méditer sur la mort. Commençons par nous rappeler ce qui précédera notre mort. Le prélude de notre mort, et c'est l'agonie. L'agonie avec ses douleurs physiques qui ont une telle influence sur l'âme, une telle conséquence pour l'âme qu'il devient pour elle difficile de prier mentalement ou même vocalement. Sa prière devient, dans le meilleur des cas, dans le cas où cette âme a été toujours fidèle à Dieu, sa prière devient une prière du cœur, de la volonté, mais il lui est difficile d'exercer les actes de son esprit à cause du corps qui se débilite. À côté de ces douleurs physiques, il y a souvent, pas toujours, mais souvent l'angoisse, au moins des moments d'angoisse pour l'avenir, parce que l'au-delà reste un grand inconnu pour nous. Nous connaissons par la foi ce qui doit arriver, mais ça reste un objet de foi, ça reste mystérieux, et l'âme peut vraiment se demander s'il y a quelque chose après la mort, et elle peut se demander si elle garde bien cette foi dans l'au-delà, au moins quel sera son sort. Une sainte comme Sainte Bernadette elle-même, qui est morte en 1879, a connu ses angoisses, ses inquiétudes au moment de sa mort. Dans ses derniers jours, elle disait à une sœur, « Ma sœur, j'ai peur. J'ai reçu tant de grâces et j'en ai si peu profité. » Puis un autre jour, elle leva la tête, joint ses mains vers une sœur et lui dit, « Chère sœur, pardonnez-moi, priez pour moi, priez pour moi. » Puis elle mit les bras en croix en criant fort, « Mon Dieu !» Alors les sœurs, prise de respect et en même temps de crainte, prière l'Ave Maria. Et Bernadette, elle-même, récita deux Ave Maria avec une voix qui sonnait l'humilité et la confiance en même temps, et dit « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse. » Ces réflexions sur le moment de l'agonie nous font comprendre l'importance pendant notre vie de la bonne habitude de prier, de l'habitude de prier, ce capital de prière, de réflexe surnaturel que nous acquérons par notre fidélité de chaque jour. Parce que si l'on n'a pas prié pendant sa vie, il sera bien difficile de prier, de tourner son âme vers Dieu au moment de la mort. Et c'est bien ce qu'on constate chez les mourants. Ceux qui n'étaient que tièdes ne pensent pas à leur fin, ne pensent qu'à leur état physique, à leur maladie, ne pensent pas à l'au-delà. En même temps, ça nous rappelle la nécessité de la foi, d'une foi toujours approfondie, de croire à l'au-delà, à ce que l'Église nous enseigne, à ce que notre Seigneur et l'Église nous enseignent sur l'au-delà, sur ce qui va se passer au moment de notre mort. Et enfin, la nécessité de la confiance, de croire à la miséricorde de Dieu. Parce qu'au moment de notre mort, nos illusions s'évanouiront et nous comprenons que nous n'avons pas mérité le ciel. Que si nous y allons, que si nous sommes sauvés, c'est par la miséricorde de Dieu. Et celui qui alors n'a pas cette foi chevillée dans la miséricorde de Dieu peut avoir beaucoup de tentations, des tentations de désespoir. Enfin, nécessité de l'humilité, de la charité. De l'humilité pour accepter ce moment ultime où nous perdons tout, de nous abandonner complètement dans les mains de Dieu. Au moment de la mort, juste après la mort, plus exactement, se passe quelque chose d'assez extraordinaire pour l'âme, au simple point de vue naturel. Le mode de sa connaissance change complètement. Ici-bas, et c'est dans l'union avec le corps, Dieu nous a créés de façon à ce que notre connaissance intellectuelle se réalise, comme dit saint Thomas, par conversion au fantasme. Ce qu'on appelle les fantasmes, ce sont ces élaborations des puissances sensibles, de la connaissance sensible, externe et interne, sur laquelle, à partir de laquelle l'âme spirituelle abstrait la connaissance, sa connaissance spirituelle, sa connaissance universelle. Mais après la mort, dans l'état de séparation de l'âme, de séparation du corps, cette connaissance par abstraction cesse. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus de puissance sensitive, il n'y a plus de moyen de connaître par ce moyen qui est naturel à l'homme. Et le nouveau mode, c'est celui qui correspond, dit saint Thomas, à toutes les puissances et à toutes les substances séparées, comme sont les anges aussi, et c'est par conversion à ce qui est en soi intelligible, une connaissance qui n'est plus naturelle, mais préternaturelle, c'est-à-dire une connaissance directe de ce qui est spirituel. Les espèces, c'est-à-dire cette matière première, si l'on peut dire, à part celle de laquelle nous connaissons, et qui viennent imprimer une partie de notre intelligence, elles viendront de la lumière de Dieu directement, ou par l'intermédiaire des anges. Mais ce n'est pas pour autant une connaissance surnaturelle encore, la connaissance surnaturelle commence quand on est au ciel, mais c'est une connaissance qui est au-dessus de la connaissance naturelle, dont des espèces qui sont participées de la lumière de Dieu et qui font directement connaître ce que nous avons à connaître. Et bien sûr, la première chose que nous découvrirons par ce mode nouveau de connaissance, eh bien, c'est tout simplement notre âme. Ici-bas, nous ne connaissons pas notre âme directement. Elle reste un mystère pour nous. Comment connaissons-nous notre âme ici? Nous la connaissons de deux façons. D'une part, par nos actes. Nous avons conscience de notre connaissance intellectuelle. Nous avons conscience des actes de notre volonté. Et donc, nous avons conscience que nous avons une puissance de connaissance, une puissance de volonté, une puissance d'amour. Et d'autre part, nous connaissons aussi par réflexion, en examinant la nature de nos actes de volonté et d'intelligence, nous pouvons comprendre que la puissance qui les produit est spirituelle et non pas matérielle. Donc nous ne connaissons pas vraiment notre âme, nous ne la connaissons qu'indirectement, elle reste un mystère pour nous. Dieu la connaît, la Sainte Vierge la connaît en Dieu, c'est comme ça qu'ils peuvent nous aider, beaucoup mieux que nous-mêmes nous ne pouvons nous aider. Mais au moment de la mort, ou juste après la mort plutôt, nous allons nous découvrir tels que nous sommes. Ce sera une surprise, peut-être un petit peu désagréable, de nous voir tels que nous sommes, avec tel vice, telle vertu aussi sans doute. d'une façon claire. Et nous verrons avant tout ce qu'est notre âme, c'est-à-dire un être spirituel qui est fait avant tout pour voir Dieu, pour connaître Dieu, pour aimer Dieu. Ce sera clair. Ce sera parfaitement clair. Les écailles tomberont de nos yeux, si l'on peut dire, et nous comprendrons pourquoi nous sommes créés. Nous comprendrons que Dieu est l'objet adéquat de notre intelligence et de notre volonté. Comment cela ? Notre intelligence étant spirituelle, elle a pour objet la vérité dans toute son ampleur, et toutes les vérités que nous connaissons ne sont que partielles. Elles ne peuvent pas combler la capacité de connaissance de notre intelligence. Le seul objet qui puisse le combler, c'est une vérité infinie, c'est Dieu. Et de même, notre volonté a aussi un objet infini, qui est le bien en général. Et tous les biens que nous aimons, que nous voulons, ne sont que partiels, ne peuvent pas combler la capacité de notre volonté. Tandis que Dieu, qui est lui le bien infini, lui seul comble cette capacité. Alors nous comprendrons très clairement ce que nous sommes et quelle est la vraie nourriture, le vrai objet, la vraie béatitude de notre intelligence et de notre volonté qui est Dieu. Avant même d'entrer au ciel, au simple point de vue naturel. Tout cela nous donnera un grand réalisme sur la vie terrestre, sur le temps que nous avons passé sur la terre. D'autre part, après la mort, l'âme est fixée dans son état. Ici-bas, tout homme s'oriente, choisit comme but de sa vie, d'une façon générale, le bonheur. Sans pouvoir préciser quelquefois ce qu'est le bonheur, en se trompant facilement sur la nature du bonheur, mais tout homme cherche le bonheur et fait tout ce qu'il fait pour atteindre le bonheur, un bonheur complet. Mais ici-bas, ce bonheur est quelque chose d'abstrait, indéterminé, il n'est pas très clair, et c'est pourquoi les hommes sont capables, de façon accidentelle, de se détourner du vrai bonheur, du vrai bien infini qui est Dieu. Ils peuvent être distraits, ils peuvent être trompés par tel bien concret partiel, tandis qu'après la mort, comme la connaissance par abstraction est terminée, il n'est plus possible. L'âme se dirige sans plus changer vers la fin ultime, concrète et déterminée qu'elle s'est fixée au moment de la mort. Cette fin concrète qu'elle a choisie, eh bien, elle ne la quittera plus jamais. Dieu ou les créatures, Dieu ou elle-même. Elle reste comme obstinée pour l'éternité. Elle ne changera plus jamais d'avis. Pourquoi ? Est-ce que ça vient de Dieu qui l'empêche de changer d'avis ? Pas du tout. Est-ce que c'est une punition de Dieu pour ceux qui sont en enfer ? Pas du tout. L'enfer est l'effet de cette obstination, il n'en est pas la cause. La cause vient tout simplement de ce changement de mode de connaissance. Et celui qui a choisi le mal, non pas sous l'apparence du mal, sous l'apparence du bien, il restera toujours fixé dans sa malice éternellement. Ce qui nous écarte ici-bas de cette vraie fin ultime de Dieu nous est tout de même présenté assez clairement par la lumière de la foi. Et ce qui nous écarte de cette fin ultime, ce qui risque, ce qui pourrait nous faire tomber, nous faire perdre cette fin ultime, c'est l'orgueil et les passions. L'orgueil parce que l'homme veut choisir lui-même, ne veut pas se soumettre à sa nature, ultimement, à la nature, au plan de Dieu. Il est fait pour Dieu, qu'il le veuille ou non, mais l'orgueil peut l'empêcher d'accepter cette nature. Et puis ce sont les passions qui aveuglent la raison, qui emprisonnent, tyrannisent la volonté et les font se tourner vers ces biens partiels, incomplets, insuffisants. Et ainsi, la meilleure assurance du salut, c'est bien l'état religieux, avec ses vœux renouvelés chaque jour, ses vœux d'obéissance qui nous maintiennent dans l'humilité, qui nous font grandir dans l'humilité, ses vœux de chasteté et de pauvreté qui modèrent les passions toujours davantage et ainsi nous protègent contre tout ce qui pourrait nous écarter de cette tendance vers la vraie fin ultime qui est Dieu, le bien de notre âme, la nourriture de notre âme. Eh bien, demandons en ce mois de novembre aux âmes du purgatoire, aux bienheureux du ciel, et puis à Notre-Dame, de vivre selon le modèle de Notre-Dame. C'est encore notre assurance la plus sûre, de vivre selon son modèle, dans l'obéissance à Notre-Dame. Alors, nous sommes conduits, peu à peu, sans le voir, dans cette tendance vers le vrai bien ultime, vers Dieu. Nous sommes dépouillés de ce qui nous écarte de cette béatitude. Et puis, remettons notre mort, l'instant de notre mort, comme nous le faisons à chaque Ave Maria, dans les mains de Notre-Dame et dans les mains de Saint-Joseph, patron de la bonne mort, pour qu'il nous guide à ces moments-là où nous aurons du mal nous-mêmes à nous guider, à vouloir. Nous serons portés par la grâce et par les prières. Et puis prions, bien sûr, pour les agonisants, pour qu'ils reçoivent toutes les grâces nécessaires à leur salut en ces moments de tentation, en ces moments d'épreuve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.